Les livres. Sélection de Radio Silence. Ici Périnée, Arctos Omegas. En ce jour de Mercure, le 27e du mois de février, de l'an de grâce 2013, à tous, présents et à venir, qui voulez bien nous écouter, salut. Malgré la quasi-complète léthargie qui s'est appesantie sur les nations d'Europe, les gens de ce temps perçoivent, au moins vaguement, la situation catastrophique de l'enseignement. Il s'agit, il est vrai, de leur progéniture et de son avenir, des garçons notamment. Et d'ailleurs paru, l'été dernier, dans la revue de l'action familiale et scolaire, la FS, numéro 221 de juin 2012, à acheter, publication de fort niveau intellectuel, un excellent article de Claire de Gatelier sur la question. Avec talent, courage et lucidité, d'une façon toute féminine, maternelle, cette jeune femme fait l'état des lieux, donnant des chiffres accablants. Les filles sont régulièrement les meilleures, les deux tiers des jeunes sortant de l'école sans aucune formation sont des garçons, etc., etc. Certes, la maturité précoce des filles, qui peut aller jusqu'à 5 ans, peut expliquer pour partie leur avance intellectuelle. Mais cette précocité a toujours existé. Or, jusque dans les années 70, les garçons faisaient au moins jeu égal avec les filles. Pour qu'ils connaissent cette situation littéralement tragique, il faut que se soit produit une manière de cataclysme. Justement est paru, fin 2010, un travail de qualité exceptionnelle sur ce déclin non du garçon seulement, mais bien de l'homme, de la virilité elle-même. C'est la tyrannie de la faiblesse, la féminisation du monde ou l'éclipse du guerrier de Paul-François Paoli, François Bourin éditeur. L'auteur part du constat fondamental qu'en Occident tout au moins, la virilité a cessé d'être une valeur ou un ensemble de valeurs. À l'inverse, sévit l'apologie, lancinante, indécente même, du féminin, de la femme. Citation. La société valorise le féminin de façon éhontée. Cette citation est d'Hélène Vecchiali, auteure remarquablement intelligente, du livre « Ainsi soit-il ». Sans de vrais hommes, pas de vraies femmes. Et ce, avec le lâche consentement des hommes eux-mêmes, complices de leur propre abaissement. Pourquoi et comment en est-on arrivé à une inversion d'une telle gravité? C'est ce à quoi l'auteur entend répondre en livrant les fruits, des fruits amers, de sa réflexion sur ce phénomène inouï et absolument nouveau dans l'histoire des hommes. Peut-être annonciateur de la terrifiante, mais aussi délivrante, apocalypse. Ce faisant, il ne se limite pas à un état des lieux, sa méditation, au contraire, porte sur l'ontologie des deux sexes, sur l'histoire des relations hiérarchiques entre le masculin et le féminin depuis la création. Particulièrement pour l'Europe d'en deçà du limès, l'Europe civilisée, jusqu'aux ébranlements récents aboutissant à la situation présente. Le primat du viril sur le féminin, du premier sexe sur le deuxième, se met en place dans le poème fondateur de la civilisation occidentale helléno-romano-chrétienne, c'est-à-dire catholique, la plus civilisée et civilisante de toutes les civilisations, l'Iliade. L'homme y est d'abord un guerrier, défini par la guerre. La virilité ainsi reconnue trouve son assomption dans l'héroïsme. Les hommes ont le pouvoir de se transcender dans le combat et d'accéder au stade intermédiaire de la rencontre extatique, c'est-à-dire la sortie de soi au sens propre, la rencontre extatique de l'humain et du divin, celle qui fait les héros ou demi-dieux comme Héraclès dans la mythologie grecque. L'homme est également investi de la puissance du logos, de la puissance de la rhétorique, Celle de la guerre, bien sûr, car pas de guerre sans stratégie, donc sans discours. Celle ensuite de la pensée conceptuelle logique, bien sûr, dont la femme est exclue. Son pouvoir à elle, ses valeurs sont autres. La douceur, la tendresse, la réserve, la pudeur. Que les temps sont changés. Surtout, surtout, le pouvoir médiatique de transmettre non seulement le divin, mais les valeurs mêmes de civilisation. Ce qui a beaucoup frappé un auteur trop inconnu dans l'Occident, dans le monde chrétien, c'est Ibn Khaldoun, un philosophe, penseur exceptionnel de la fin de la deuxième moitié du XIVe siècle, qui avait été frappé du caractère capital essentiel de la femme pour transmettre les valeurs de civilisation. C'est le ventre qui civilise. Cette conception de la hiérarchie des sexes va s'imposer pendant des siècles, chez les philosophes grecs d'abord, puis chez saint Paul, l'apôtre, l'apôtre par excellence. Paoli, qui se dit agnostique, en fait un portrait superbe et véridique. Le portrait d'un combattant, le définissant comme incandescent. Cette hiérarchie continue à inspirer le Moyen Âge hyper viril en ses violences guerrières et ses élans mystiques. Et jusque dans l'amour courtois, ce miracle d'équilibre entre les sexes, où la dame est, au sens fort, maîtresse de son chevalier, non pour l'humilier, mais au contraire, par sa féminité intégrale et intégralement acceptée par elle, le rende viril à l'extrême. Le rende viril à l'extrême. C'est Tristan et Iseult. La dite conception se maintient jusque dans les temps contemporains, avec, comme le remarque Jean-Jacques, un fléchissement à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'influence des salons où règne une femme. Où, selon Anne Bernet, toujours d'une cruelle mais admirable lucidité, citation de Dan Bernay, les trois quarts des hommes de la noblesse ont déserté leur virilité. Sic. Malgré tout, même au XIXe siècle, les philosophes pensent pour cette question des sexes comme Platon. Ainsi Proudhon et Nietzsche, que Paoli réhabilite, Nietzsche, à très juste titre. Il relève notamment qu'il n'est pas du tout un prophète du désordre, appréciation qui relève d'un véritable contresens, d'une véritable mauvaise foi, mais bien un penseur de la tension vitale et de l'ordre. Il fait tout au long de son œuvre l'apologie de la langue française classique, du goût classique, des moralistes français du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, XVIIe siècle. Son hostilité au christianisme elle-même s'adresse moins à l'essence du christianisme qu'à sa dérive saint-sulpicienne. Nietzsche, donc, parle de l'infirmité intellectuelle de la femme, tout en lui attribuant le génie de la vie, ce qui n'est pas si mal, la qualifiant de bienfait qui doit agrémenter la condition humaine, la condition virile, mais tout en recommandant, malgré tout, de prendre son fouet quand on va chez les femmes. Sic, recic. Tout va changer avec les guerres et les ébranlements du XXe siècle. Remplaçant les hommes mobilisés, les femmes commencent à acquérir une place dans la société et elles veulent qu'on le reconnaisse. La situation s'aggrave avec et après la Deuxième Guerre mondiale. L'homme, seul détenteur du pouvoir politique, est accusé d'abord d'être à l'origine des guerres. Donc, des carnages subséquents que les femmes n'apprécient pas. Ce qui n'empêche pas de condamner au moins le mâle français, les mâles français, d'avoir été vaincus en 1940. Alors qu'il est établi, attesté, que l'armée française s'est très bien battue, s'est héroïquement battue, les Allemands en témoignent, ce dont Paoli lui rend un vibrant hommage. C'est finalement la guerre et le guerrier, c'est-à-dire l'homme, dans ce qui le fait homme, qui sont mis ainsi hors la loi. Simultanément, le terrorisme idéologique des dames féministes le bouleversement gravissime dû à Vatican II, la crise morale nullement refermée de l'abandon de l'Algérie, la livraison des harkis, toutes les ignominies, l'aménagement du système éducatif totalement en faveur des demoiselles, l'enseignement mixte imposé, tout cela amène la féminisation massive de la société et la promotion de tout ce qui est censé être des valeurs féminines, avec fatalement la féminisation même des hommes devenus objets de mépris, d'hostilité, voire de haine. Les féministes, telles les dames Beauvoir et Badinter, voulaient une femme qui, pourvue des droits des hommes, devienne ainsi un humain, un homme comme les autres. Ce sont désormais les garçons qui sont incités à devenir des filles comme les autres, en moins bien tout de même. Il ne faut pas oublier l'extraordinaire développement d'un féminisme militant, d'un féminisme de combat, à partir de la fin du XIXe siècle. Certes, depuis Sappho, et sans doute avant, le féminisme a toujours existé. Mais ce n'est qu'assez récemment qu'il est devenu essentiellement haineux, castratif, létal. Elle, le magazine Elle, Marie-Claire, les dames Beauvoir et Badinter ont peu à voir avec, par exemple, Olympe de Gouges ou Lucie Delarue-Mardrus, féministe, tribade et poète, mais quand même fréquentable. Tandis que les plus radicales des dames féministes prônent ouvertement désormais la domination des femmes sur les hommes, réduit ainsi à l'état d'ilote plus ou moins consentant. Ceci pour en finir vraiment, une fois pour toutes, avec la prétendue oppression millénaire des hommes sur leurs sœurs inférieures. L'expression est de Lucie Delarue-Mardrus, déjà nommée. Cet effondrement de la condition masculine s'est fait, somme toute, très rapidement. L'attaque féministe a porté principalement sur le père, sur le statut de l'homme marié et père. Il s'en est suivi un véritable lynchage, une véritable mise à mort du père. À ce titre, mai 68 a été un révélateur de la pensée dominante. L'auteur de cette chronique a vu en mai 68 promener des pancartes par des garçons avec cette inscription. Et j'en demande pardon de la crudité des termes aux dames et jeunes filles qui nous écoutent. Un père, à quoi ça sert? Ça pue, c'est con, ça emmerde. Cela pour ce que le père, c'est la loi, avec un L majuscule. C'est l'ordre juridique, l'ordre tout court, l'ordre du cosmos, l'ordre divin. Sa destruction, c'est le retour au chaos, autrement dit à la barbarie. La loi, en effet, avec ce qu'elle induit d'interdit ou de renoncement, est liée au signifiant paternel, ce que signifie le père, est liée au signifiant paternel, et à la transmission du langage, qui est essentielle, capitale. La désarticulation du langage et la négation de la loi seraient, sont, productrices de violence. Citation du livre. L'effondrement du père fait se banaliser la violence. Aussi, Gabriel Rubin, auteur du livre « Il faut aider les pères », a-t-elle pu déclarer « Pas de père ». Pas de civilisation. Et également, toujours citation, qu'une société se construit à partir du père. C'est lui qui énonce le permis et l'interdit, qui coupe le lien fusionnel mortifère entre la mère et l'enfant. Fin de citation. La mort du père, la dévirilisation de la société, n'ont pas provoqué que la violence. En procède aussi la déféminisation manifeste qui crève les yeux. Des femmes, devenues les égales des hommes et leurs rivales dans les compétitions de la vie, elles ne peuvent réussir qu'au prix du sacrifice de ce qui fait l'essence même de leur féminité, le don de soi, cette chose ineffable et admirable. José Saramago, écrivain communiste portugais, prix Nobel de littérature, a pu écrire ainsi « Une femme qui exerce le pouvoir » que celui-ci soit économique ou politique, cesse d'être une femme. Citation qui, s'il n'avait pas été communiste, lui aurait valu bien des ennuis. Et un médecin contemporain, a pu dire, pour la jeune fille d'aujourd'hui, l'autre, c'est elle-même. Il s'ensuit notamment une désabsolutisation de l'amour par les femmes elles-mêmes. Désormais, ce sont majoritairement les hommes qui désirent le mariage. Remarque à compléter par ce fait. Désormais, ce sont à 70%, plus des deux tiers, les femmes qui demandent le divorce. Ce qu'avec une lucidité exceptionnelle, Paoli décrit est apocalyptique, mais malheureusement véridique. Il ne suggère rien, cependant, aucun remède pour sortir de ces temps infernaux, se limitant à cette laconique constatation, citation, être un homme maintenant, quoi de plus difficile en somme? Faut-il donc envisager, par exemple, de réduire les femmes en esclavage, comme suggéré il y a quelques années Stephen Hickey? Ce serait bien appauvrissant. Mieux serait tout au plus de les soumettre à une rééducation profonde et ferme. Ou faut-il envisager de recourir à l'islam, devenu ainsi, non pas seulement, une chance pour la France, mais bien pour une virilité en pleine décomposition. La religion du prophète, ayant su maintenir le primat viril, en conformité d'ailleurs avec la volonté divine dans la Genèse. Mais comment accepter cette lâcheté que constitue toujours l'apostasie? Alors que faire? À défaut d'une recette, Paoli, de façon discrète, fait luire une petite lueur d'espérance. Il cite en effet Monseigneur Brugues, évêque d'Avignon. Citation. D'une certaine manière, l'être humain n'existe pas, mais seulement des êtres masculins et féminins. La réalité de la condition humaine n'apparaît que dans la différence des sexes irréductible, qui est constitutive de l'être individuel même. La Bible affirme que l'identification sexuelle, l'identification à un sexe, et première, elle remonte à la source de l'être, à la création par le Père. Dans ces magnifiques propos de Monseigneur, étant chassée comme une escarboucle, l'espérance d'un retour à la normale qui s'imposerait. Peut-être notamment, et en raison de cette espérance, peut-on penser que des filles, elles-mêmes, comprenant que sont de vrais hommes, sans de vrais hommes, pas de vraies femmes, prendront la tête de l'indispensable croisade en vue de ressusciter le guerrier assassiné. Pour y aider, il faut commencer par lire, relire, faire lire, diffuser, parler au maximum de l'ouvrage de Paoli, un chef-d'œuvre d'une qualité exceptionnelle pour lequel son auteur doit être salué de l'épée, un livre qui exorcise les sortilèges infernaux lancé contre le guerrier. Merci de nous avoir écoutés avec patience. À une autre fois, qu'en attendant nous garde la très sainte Vierge, notre reine, une femme, qu'il faut prier de se souvenir de ce que c'est un fils, un enfant mâle, le texte de l'Apocalypse, un fils, un enfant mâle, qu'elle-même a mis au monde. Ô les cœurs, et hec ad majorem Dei gloriam.